Bon, on va tout de suite tenter de répondre à plusieurs de vos questions concernant la COVID-19. Hier, dans le bilan, on sait maintenant qu'il y a un décès de confirmé, une personne âgée dans Lanaudière qui a un contact, en tout cas à première vue, avec quelqu'un qui revenait de l'étranger. 94 personnes sont infectées. Alors, avec nous ce matin, le Dr Carl Weiss, qui est microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses. Bonjour, Dr Weiss.
Bonjour, M. Arcand.
Première question, j'écoutais hier le Dr Arruda en point de presse. L'impression, puis vous me corrigerez si j'ai tort, là, mais c'est que les chiffres qui nous seront transmis plus tard aujourd'hui, demain, samedi, dimanche, risquent de montrer quand même une tendance importante vers la hausse.
Ben c'est clair, on a une augmentation importante parce que vous voyez que depuis, disons, une semaine, le nombre de cas au Québec a augmenté considérablement. Donc, c'est pas juste un nombre absolu, c'est aussi un nombre de proportions. On teste aussi beaucoup plus, on améliore grandement nos capacités de test. Et c'est normal qu'on est dans la phase d'accélération de la courbe. Donc, il faut s'attendre à avoir une augmentation importante du nombre de cas positifs. C'est pas une surprise, hein, c'était prévu.
À quel moment vous croyez, je sais qu'on peut pas tracer ça là, de façon très claire, mais qu'on risque d'atteindre ce qu'on appelle le pic là, ou le pic au Québec?
Mais je vous dirais, on a fait une chose de très, très bien au Québec. Je pense que M. Legault a pris des décisions qui ont été très importantes, très rapidement. Et peut-être, avec tout ce qui a été fait, on l'a fait beaucoup plus tôt que dans beaucoup d'endroits dans le monde. Ça permettra, à ce moment-là, d'aplatir la courbe éventuellement plus rapidement quand on avait encore un nombre de cas relativement faible. La seule chose qu'on a actuellement, les deux ou trois prochaines semaines vont être difficiles parce qu'on a encore beaucoup de retours de voyage et au Québec, l'immense majorité des cas ont été acquis en voyage. Et comme on a laissé rentrer les gens relativement encore tardivement, et la relâche a été un problème parce que beaucoup de gens se sont promenés dans le monde, ce qui fait qu'on a encore une période de 2-3 semaines où on va devoir payer le coût des gens qui étaient à l'extérieur du Québec, qui ont pu être en contact avec des gens qui venaient de d'autres pays qui, eux, avait donc le COVID-19, et donc on devrait avoir encore une augmentation des cas pendant les prochaines semaines. C'est difficile de dire, mais vous savez, il y a des modélisations mathématiques, et c'est sûr qu'on parle de plusieurs semaines, voire peut-être de plusieurs mois. Donc il faut vraiment que la population passe au mode de compréhension, de résiliation, et puis de l'effort à long terme. C'est un marathon qu'on est en train de courir. On n'aura pas une solution facile demain, puis je pense que tout le monde le répète, et c'est comme ça que les gens doivent avoir le message.
Je vous écoute, là, et c'est pas vous qui prenez la décision, ni moi, là, mais j'ai pas l'impression que les écoles, cégep, université vont rouvrir, là, après le fameux 2 semaines.
C'est sûr que c'est pas moi qui prends la décision, mais on regarde ce qui se passe ailleurs, on essaie de voir, il faut pas oublier que les Européens sont dans certains pays 3 à 4 semaines, je vous dirais, en avance de nous par rapport à leur épidémiologie, mais ils ont débuté leurs mesures beaucoup plus tardivement. Donc, ils ont commencé à mettre des mesures en place alors que leur situation était bien pire que la situation du Québec actuel. Donc, l'avantage que nous avons maintenant au Québec, c'est qu'on a pris des mesures qui sont très importantes et qui ont été les bonnes mesures à prendre, et on les a pris relativement tôt. Donc, il faut voir comment les choses vont évoluer. Et le fait de demander aux gens de ne plus voyager, d'avoir limité le retour des voyageurs, etc., fait qu'on va peut-être éviter une catastrophe à l'italienne ou maintenant même à l'espagnole ou à la française, où le nombre de cas a augmenté beaucoup, sans compter tous les autres pays d'Europe où les nombres de cas sont extrêmement élevés. Vous savez, des pays comme la Norvège, qui a 4,5 millions d'habitants, ou le Danemark avec 5 millions d'habitants, ont un nombre de cas très élevé. Et si vous comparez ces pays-là à ce qu'on a comme épidémiologie au Québec, ils sont actuellement dans une situation beaucoup plus difficile que la nôtre. Donc, je dirais qu'on a pris les bonnes mesures très tôt, mais il est clair que si on se fie à ce qui se passe ailleurs, les écoles risquent d'être fermées pour plus longtemps.
OK. Passons à des questions un peu plus, je dirais, scientifiques, techniques pures. Là, il y a beaucoup de gens qui se demandent, parce qu'on voit plein de trucs comme information. Quand on parle du virus et que donc il y a un risque de contamination quand on touche à des surfaces. Ce risque-là dure combien de temps? Est-ce que c'est 3 minutes? Est-ce que c'est 30 minutes? Est-ce que c'est 3 heures?
On va dire 3 heures. Alors, c'est pas absolu. Ce que je voudrais dire à la population, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'articles scientifiques publier sur quelque chose que sur ce virus-là dans une période de 24 heures. Donc, la publication dans le monde foisonne. Mais ce qu'on peut dire, c'est environ 3 heures, 4 heures, des virus peuvent survivre sur les surfaces. Le virus a tendance à mieux survivre sur des surfaces en acier ou en plastique que sur des surfaces, par exemple, en cuivre ou en carton. Donc, si, par exemple, tout ce qui est de l'acier ou tout ce qui est du plastique permet au virus de mieux survivre que du carton, par exemple.
Est-ce que le degré de température a une influence? Le fait, par exemple, que ce soit dans une pièce qui est peut-être plus chaude ou plus froide, ou ça n'a aucun effet?
Ça a peu d'effet parce que le froid, les virus peuvent subsister quand même relativement longtemps. Il faut monter à des températures très élevées pour avoir un impact sur le virus. Ce qui va par contre être utile, c'est la ventilation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ouvrez vos fenêtres, vous ouvrez votre garage, vous ventilez, vous changez l'air. Ça peut être utile, ça peut favoriser donc la recirculation de l'air et ça peut enlever des virus qui pourraient être en suspension et que vous allez respirer.
OK. Il y a beaucoup d'infos qui circulent sur des recherches concernant des vaccins, des médicaments. Et ce qui est très, j'allais dire, entre guillemets, tendance sur le web, là, c'est un essai mené à Marseille avec un médicament, la chloroquine, qui est principalement utilisée contre le paludisme. Et on laisse entendre que ça donne des résultats sur les patients testés positifs.
Alors oui, c'est une étude qui a été faite par quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Didier Raoult, qui est un scientifique, qui est un infectiologue, qui travaille beaucoup sur certaines catégories de microbes qu'on appelle les rickettsies, etc. Donc c'est quelqu'un de très sérieux. Et la chloroquine avait déjà été faite et utilisée en Chine. Il y a une base scientifique sur l'efficacité de la chloroquine. Toutefois, je vous dirais, avant de se lancer dans tout ça, il faut qu'on fasse quand même cela de façon ordonnée et structurée. Il y a par exemple un médicament qu'on appelait le Caletra, qui était un médicament qu'on utilisait pour le VIH, qu'on a commencé à donner à des patients. Et là, on a des données qui sont sorties nous démontrant que ce médicament avait peu d'efficacité. Donc, oui, on va avoir des médicaments, oui, on va commencer à utiliser ces médicaments, mais il faut le faire de façon ordonnée. Et au Québec, on va avoir une politique ordonnée et structurée d'utilisation de ces médicaments. Vous savez, on a un organisme au Québec qui est un organisme réputé qui s'appelle l'INES et qui est justement qui a la tâche souvent de coordonner ce genre de lignes directrices, etc. Donc, les gens y travaillent et on va le faire, mais de façon ordonnée. Il ne faut pas non plus qu'on donne des médicaments qui pourraient être dangereux, qui n'ont pas forcément de bénéfices sans savoir, parce que c'est un médicament. Ça a quand même des effets secondaires et ça peut quand même avoir des interactions médicamenteuses.
En terminant, et je ne sais pas quelle peut être votre réponse, mais je vous pose quand même la question, qu'est-ce que vous dites aux gens qui travaillent sur des chantiers de construction, qui travaillent dans des surfaces, des grandes surfaces, supermarchés, qui sont en contact avec des clients ou avec des collègues de travail où la distance est difficile à faire respecter dans les services de transport en commun? Quelle est la meilleure façon pour ces gens-là de se protéger?
Bien, vous savez, c'est un ensemble de mesures. C'est premièrement, d'abord, c'est aussi un travail des autres de les protéger, c'est-à-dire d'avoir une conscience sociale. Si vous êtes malade, si vous toussez, vous faites de la fièvre, s'il vous plaît, ne prenez pas les transports en commun, n'allez pas au travail. Donc, si vous voulez minimiser le risque pour les autres, c'est à nous-mêmes de faire notre travail personnel. La deuxième chose, c'est pour ces gens-là, évidemment, de faire ce qu'on appelle de l'hygiène des mains régulière, donc lavage des mains, d'utiliser des gels alcoolisés, le savon et l'eau, c'est aussi très efficace. Donc, c'est d'utiliser un ensemble de mesures et l'étiquette respiratoire, c'est-à-dire si les gens toussent, ben toussez dans votre coude. La distanciation, je vous dirais, elle se fait un petit peu parce qu'aujourd'hui, vous voyez que les transports en commun, même s'ils sont encore fonctionnels, sont beaucoup moins bondés. Alors, il n'y a pas de panacée, mais il y a, je vous dirais, un ensemble de mesures à prendre. Je vois, par exemple, que certains magasins de grande surface ont dit on n'acceptera qu'un certain nombre de gens à l'intérieur de nos magasins en même temps. Alors, je pense que c'est une bonne chose. C'est important que les gens ne se ruent pas constamment vers les magasins pour acheter des choses en quantité faramineuse dont ils n'ont pas forcément besoin. Alors, c'est vraiment la conscientisation sociale de tout le monde. C'est un petit peu comme ça qu'on va gagner la bataille, je vous dirais, une pièce à la fois. Et tout le monde doit comprendre qu'il ne représente qu'un petit morceau du tableau, mais c'est l'ensemble de ce tableau qui va finir par donner l'image finale.
Merci beaucoup encore une fois, Dr Weiss. Bonne journée.
Ça me fait plaisir, M. Hartan.
Au revoir. Dr. Carl Weiss, microbiologiste, spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital Général Juif de Montréal.